Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans le cadre de Lectures en liberté, nous reprenons donc les aventures de Colin et Chloé dans L'écume des jours de Boris Vian. Colin sortit de chez lui suivi de Chic. Ils allaient chercher Chloé à pied. Nicolas les rejoindrait directement à l'église. Il surveillait la cuisson d'un plat spécial découvert dans le gouffet et dont il attendait des merveilles. Il y avait sur le chemin une librairie devant laquelle Chic tomba en arrêt. Au beau milieu de l'étalage, un exemplaire du Remugle de Partre, relié de maroquins violets aux armes de la duchesse de Beauvoir, scintillait tel un précieux bijou.
« Oh !» dit Chic, « regarde ça !»«
Quoi ?» dit Colin qui revint en arrière. « Ah, ça !»«
Oui !» dit Chic.
Il commençait à baver de convoitise. Un petit ruisseau se formait entre ses pieds et prit le chemin du bord du trottoir, contournant les menues inégalités de la poussière.
« Eh bien, » dit Colin, « tu l'as ?»«
Pas relié comme ça, » dit Chic. « Oh, la barbe !» dit Colin. « Viens, on est pressé. »«
Il vaut au moins un ou deux doublezons, » dit Chic.
« Certainement, » dit Colin qui s'éloigna. Chic fouilla ses poches.
« Colin » appela-t-il. « Prête-moi un peu d'argent. »
Colin s'arrêta de nouveau. Il secoua la tête d'un air attristé. « Je crois, dit-il, que les 25 000 doublezons que je t'ai promis ne dureront pas longtemps. » Chic rougit, baissa le nez, mais tendit la main. Il prit l'argent et s'élança dans la boutique. Colin attendait, soucieux. En voyant l'air hilar de Chic, il secoua de nouveau la tête, compatissant cette fois. Un demi-sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu es fou, mon pauvre Chic. Combien l'as-tu payé ?»«
Mais ça n'a pas d'importance, dit Chic. Dépêchons-nous. »
Ils se hâtèrent. Chic semblait monter sur dragon volant. À la porte de Chloé, des gens regardaient la belle voiture blanche commandée par Colin et qu'on venait de livrer avec le chauffeur de cérémonie. À l'intérieur, tout recouvert de fourrure blanche, on était bien au chaud et on entendait de la musique. Le ciel restait bleu, les nuages légers et vagues. Il faisait froid sans exagération. L'hiver tirait à sa fin. Le plancher de l'ascenseur se gonfla sous leurs pieds et dans un gros spasme mou les déposa à l'étage. La porte s'ouvrit devant eux. Ils sonnèrent, on vint ouvrir. Chloé les attendait. Outre son soutien-gorge de cellophane, sa petite culotte blanche et ses bas, elle avait deux épaisseurs de mousseline sur le corps et un grand voile de tulle qui partait des épaules, laissant la tête entièrement libre. Alice et Isis étaient habillées de la même façon, mais leur robe était couleur d'eau. Leurs cheveux frisés brillaient dans le soleil et s'arrondissaient sur leurs épaules en masses lourdes et odorantes. On ne savait laquelle choisir. Colin savait. Il n'osa pas embrasser Chloé pour ne pas la troubler et se rattrapa avec Isis et Alice. Elle se laissait faire de bon gré, voyant comme il était heureux. Toute la chambre était pleine de fleurs blanches choisies par Colin et sur l'oreiller du lit défait, il y avait un pétale de rose rouge. L'odeur des fleurs et le parfum des filles se mêlaient étroitement et Chic se prenait pour une abeille en ruche. Alice portait une orchidée mauve dans les cheveux, Isis une rose écarlate et Chloé un gros camélia blanc. Elle tenait une gerbe de lys et un bracelet de feuilles de lierre toujours neuve et vernie brillait à côté de son gros bracelet d'or bleu. Sa bague de fiançailles était pavée de petits diamants carrés ou oblongs qui dessinaient en morse le nom de Colin. Dans un coin, sous une gerbe, apparaissait le sommet du crâne d'un cinématographiste qui tournait désespérément sa manivelle. Colin posa quelques instants avec Chloé, puis ce furent Chic, Alice et Isis, et tous se rassemblèrent alors et suivirent Chloé qui pénétra la première dans l'ascenseur. Les câbles, dit celui, s'allongèrent tant sous le poids de la trop lourde charge qu'il n'y eut pas besoin d'appuyer sur le bouton, mais ils prirent soin de sortir tout d'un coup pour ne point remonter avec la cabine. Le chauffeur ouvrit la porte. Les trois filles et Colin montèrent derrière, Chic se mit devant et l'on partit. Tous les gens se retournaient dans la rue et moulinaient des bras avec enthousiasme, croyant que c'était le président. Et puis repartaient dans leur direction en pensant à des choses brillantes et dorées. L'église n'était pas très éloignée. La voiture décrivit une élégante cardioïde et s'arrêta en bas des marches. Sur le perron, entre deux gros piliers sculptés, le religieux, le bedon et le chouiche faisaient la parade avant la noce. Derrière eux, de longues draperies de soie blanche descendaient jusqu'au sol et les 14 enfants de foi exécutaient un ballet. Ils étaient revêtus de blouses blanches avec des culottes rouges et des souliers blancs. Au lieu de culottes, les filles portaient de petites jupes rouges plissées et elles avaient une plume rouge dans les cheveux. Le religieux tenait la grosse caisse, le bedon jouait du fifre et le chouiche scandait le rythme avec des maracasses. Ils chantaient tous trois le refrain en chœur, après quoi le chouiche esquissa un pas de claquette, saisit une basse et exécuta un chorus sensationnel à l'archet sur une musique de circonstance. Les 73 musiciens jouaient déjà sur le balcon et les cloches sonnaient à toute volée. Colin et Chloé regardaient émerveillés la parade du religieux, du bedon et du chouiche, et deux sous-chouiches attendaient par derrière à la porte de l'église le moment de présenter la hallebarde. Le religieux fit un dernier roulement en jonglant avec les baguettes. Le bedon tira de son fifre un miaulement suraigu qui fit entrer en dévotion la moitié des bigotes rangées tout le long des marches pour voir la mariée. Et le chouiche brisa dans un dernier accord les cordes de sa contrebasse. Alors, les 14 enfants de foi descendirent les marches à la queue leu-leu, et les filles se rangèrent à droite, les garçons à gauche de la porte de la voiture. Chloé sortit. Elle était ravissante et radieuse dans sa robe blanche. Alice et Isis suivirent. Nicolas venait d'arriver et s'approcha du groupe. Colin prit le bras de Chloé, Nicolas celui d'Isis et Chic celui d'Alice, et ils gravirent les marches suivis des frères Desmarais, Coriolan à droite et Pégase à gauche, pendant que les enfants de foi venaient par couple en s'amignotant tout au long de l'escalier. Le religieux, le bedon et le chouiche, après avoir rangé leurs instruments, dansaient une ronde en attendant. Sur le perron, Colin et ses amis exécutèrent un mouvement compliqué et se trouvèrent de la façon adéquate pour rentrer dans l'église. Colin avec Alice, Nicolas au bras de Chloé, puis Chic et Isis, et enfin les frères Desmarais, mais cette fois Pégase à droite et Coriolan à gauche. Le religieux et ses séides s'arrêtèrent de tourner, prirent la tête du cortège et tous, chantant un vieux chœur grégorien, se ruèrent vers la porte. Les sous-chouiches leur cassaient sur la tête au passage un petit ballon de cristal rempli d'eau lustrale et leur plantait dans les cheveux un bâtonnet d'encens allumé qui brûlait avec une flamme jaune pour les hommes et violette pour les femmes. Les wagonnets étaient rangés à l'entrée de l'église. Colin et Alice s'installèrent dans le premier et partirent tout de suite. On tombait dans un couloir obscur qui sentait la religion. Le wagonnet filait sur les rails avec un bruit de tonnerre et la musique retentissait avec une grande force. Au début du couloir, le wagonnet enfonça une porte, tourna à angle droit et le saint apparut dans une lumière verte. Il grimaçait horriblement et Alice se serra contre Colin. Des toiles d'araignée leur balayaient la figure, des fragments de prières leur revenaient à la mémoire.
La seconde vision fut celle de la Vierge, et à la troisième, face à Dieu qui avait un œil au beurre noir et l'air pas content, Colin se rappelait toute la prière et put la dire à Alice. Le wagonnet déboucha dans un fracas assourdissant sous la voûte de la travée latérale et s'arrêta. Colin descendit, laissa Alice gagner sa place et attendit Chloé qui émergea bientôt.
Ils regardèrent la nef. Il y avait une grande foule.
Tous les gens qui les connaissaient étaient là, écoutant la musique et se réjouissant d'une si belle cérémonie. Le chouiche et le bedon, cabriolant dans leurs beaux habits, apparurent, précédant le religieux qui conduisait le chevêche. Tout le monde se leva et le chevêche s'assit dans un grand fauteuil en velours. Le bruit des chaises sur les dalles était très harmonieux. La musique s'arrêta soudain. Le religieux s'agenouilla devant l'autel, tapa trois fois sa tête par terre et le bedon se dirigea vers Colin et Chloé pour les mener à leur place, tandis que le chouiche faisait ranger les enfants de foi des deux côtés de l'autel.
Il y avait maintenant un très profond silence dans l'église et les gens retenaient leurs haleines.
Partout, de grandes lumières envoyaient des faisceaux de rayons sur des choses dorées qui les faisaient éclater dans tous les sens, et les larges raies jaunes et violettes de l'église donnaient à la nef l'aspect de l'abdomen d'une énorme guêpe couchée vue de l'intérieur.
Agenouillés devant l'autel sur deux prioirs recouverts de velours blanc, Colin et Chloé, la main dans la main, attendaient.
Le religieux devant eux compulsait rapidement un gros livre, car il ne se rappelait plus les formules. De temps à autre, il se retournait pour jeter un coup d'œil à Chloé, dont il aimait bien la robe. Enfin, il s'arrêta de tourner les pages, se redressa, fit de la main un signe au chef d'orchestre qui attaqua l'ouverture. Le religieux prit son souffle et commença de chanter le cérémonial soutenu par un fond de 11 trompettes bouchées jouant à l'unisson. Le chevêche somnolait doucement, la main sur sa crosse. Il savait qu'on le réveillerait au moment de chanter à son tour. L'ouverture et le cérémonial étaient écrits sur des thèmes classiques de blues. Pour l'engagement, Colin avait demandé que l'on jouât l'arrangement de Duke Ellington sur un vieil air bien connu, Chloé.
Devant Colin, accroché à la paroi, on voyait Jésus sur une grande croix. Il paraissait heureux d'avoir été invité et regardait tout cela avec intérêt. Colin tenait la main de Chloé et souriait vaguement à Jésus. Il était un peu fatigué. La cérémonie lui revenait très chère. 5000 doublezons, et il était content qu'elle fût réussie. Il y avait des fleurs autour de l'autel. Il aimait la musique que l'on jouait en ce moment.
Il vit le religieux devant lui et reconnut l'air. Alors, il ferma doucement les yeux. Il se pencha un peu en avant et il dit « oui ».
Chloé dit « oui » aussi. Et le religieux leur serra vigoureusement la main.
L'orchestre repartit de plus belle et le chevêche se leva pour l'exhortation. Le chouiche se glissait entre deux rangées de personnes pour donner un grand coup de canne sur les doigts de Chic qui venait d'ouvrir son livre au lieu d'écouter.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar. Car encore Igor y dort, mais près de son oreille, merveilleux, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocu qu'attends-tu? Quitte-toi tes cocu, tacataca quitté et quitter ton quartier. Tacati t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, tacati t'a quitté. Ôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. T'attends t'attaquer contre ta cocoté, quatre écus tout compté et quitte ton quartier. Tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catitas qui n'est un coquin, coquin.
et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup, tic-tac, tic. Oh matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
Après la pause musicale habituelle, nous revenons à L'écume des jours de Boris Vian.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
La grande voiture blanche se frayait précautionneusement un chemin dans les ornières de la route. Colin et Chloé, assis derrière, regardaient le paysage avec un certain malaise. Le ciel était bas. Des oiseaux rouges volaient au ras des fils télégraphiques, en montant et descendant comme eux, et leurs cris aigres se reflétaient sur l'eau plombée des flaques. « Pourquoi est-on passé par là ?» demanda Chloé. « C'est un raccourci, » dit Colin. « C'est obligatoire. La route ordinaire est usée. Tout le monde a voulu y rouler parce qu'il y faisait beau tout le temps et maintenant il ne reste plus que celle-ci. Ne t'inquiète pas. Nicolas sait conduire. » « C'est cette lumière, » dit Chloé. Son cœur battait vite, comme serré dans une coque trop dure. Colin passa son bras autour de Chloé et prit le cou gracieux entre ses doigts sous les cheveux, comme on prend un petit chat. « Oui, » dit Chloé en rentrant la tête dans les épaules, car Colin la chatouillait. « Touche-moi, j'ai peur toute seule. » « Veux-tu que je mette les glaces jaunes ?» dit Colin. « Mets quelques couleurs. » Colin pressa les boutons vert, bleu, jaune, rouge, et les glaces correspondantes remplacèrent celles de la voiture. On se serait cru dans un arc-en-ciel. Et sur la fourrure blanche, des ombres bariolées dansaient au passage de chaque poteau télégraphique. Chloé se sentit mieux. Il y avait des deux côtés de la route une mousse rase et maigre, d'un vert décoloré, et de temps à autre un arbre tordu et échevelé. Pas un souffle de vent ne ridait les nappes de boue qui giclaient sous les roues de la voiture. Nicolas peinait dur pour garder le contrôle de la direction et se maintenait avec effort au milieu de la chaussée effondrée. Il se retourna un instant. « Ne vous en faites pas, » dit-il à Chloé, « ça ne va pas durer, la route change bientôt. » Chloé se retourna vers la glace à sa droite et frissonna. Une bête écailleuse les regardait, debout près d'un poteau télégraphique. « Regarde, Colin, qu'est-ce que c'est ?» Colin regarda. « Je ne sais pas, » dit-il, « ça n'a pas l'air méchant. » « C'est un des hommes qui entretiennent les lignes, » dit Nicolas par-dessus son épaule. « Ils sont habillés comme ça pour que la boue n'entre pas jusqu'à eux. » « C'était très laid, » murmura Chloé. Colin l'embrassa. « N'aie pas peur, ma Chloé, c'était juste un homme. » Sous les roues, le sol paraissait plus ferme. Une vague lueur teintait l'horizon. « Regarde, » dit Colin, « c'est le soleil !» Nicolas secoua négativement la tête. « Ce sont les mines de cuivre, » dit-il, « on va les traverser. » La souris à côté de Nicolas dressa l'oreille. « Oui, » dit Nicolas, « il va faire chaud. » La route tourna plusieurs fois. La boue maintenant commençait à fumer. La voiture était environnée de vapeurs blanches à forte odeur de cuivre. Puis la boue durcit complètement et la chaussée émergea, craquelée et poussiéreuse. Loin devant, l'air vibrait comme au-dessus d'un grand four. « Je n'aime pas ça, » dit Chloé. « On ne peut pas passer d'un autre côté. »« Il n'y a que ce chemin, » dit Colin. « Veux-tu le livre de Gouffet ? Je l'ai pris. » Il n'avait pas emmené d'autres bagages, comptant tout acheter en route. on baisse les glaces de couleur ? Dit encore Colin.
Oui, dit Chloé, maintenant la lumière est moins mauvaise.
Brusquement, la route tourna et ils se trouvèrent au milieu des mines de cuivre. Elles s'étageaient des deux côtés de quelques mètres en contrebas. D'immenses étendues de cuivre verdâtre à l'infini déroulaient leur aridité. Des centaines d'hommes vêtus de combinaisons hermétiques s'agitaient autour des feux, d'autres empilaient en pyramide régulière le combustible que l'on amenait sans cesse dans des wagonnets électriques. Le cuivre, sous l'effet de la chaleur, fondait et coulait en ruisseaux rouges, frangés de scories spongieuses et dures comme de la pierre. De place en place, on les rassemblait dans de grands réservoirs où des machines les pompaient et les transvasaient dans des tuyaux ovales.
« Quel travail terrible !» dit Chloé.
« C'est assez bien payé, » dit Nicolas. Quelques hommes s'étaient arrêtés pour voir passer la voiture. On ne voyait dans leurs yeux qu'une pitié un peu narquoise. Ils étaient larges et forts. Ils avaient l'air inaltérables.
« Ils ne nous aiment pas, » dit Chloé. « Allons-nous-en d'ici. »«
Ils travaillent, » dit Colin.
« Ce n'est pas une raison, » dit Chloé.
Nicolas accéléra un peu. La voiture filait sur la route craquelée dans la rumeur des machines et du cuivre en fusion.
« On va bientôt rejoindre l'ancienne route, » dit Nicolas. « Pourquoi sont-ils si méprisants ?» demanda Chloé. « Ce n'est pas tellement bien de travailler. »
« On leur a dit que c'était bien, » dit Colin. « En général, on trouve ça bien. En fait, personne ne le pense. » On le fait par habitude, et pour ne pas y penser, justement.
En tout cas, c'est idiot de faire un travail que les machines pourraient faire.
Il faut construire des machines, dit Colin. Qui le fera ?
Oh, évidemment, dit Chloé, pour faire un œuf, il faut une poule. Mais une fois qu'on a la poule, on peut avoir des tas d'œufs. Il faut donc mieux commencer par la poule.
Il faudrait savoir, dit Colin, qui empêche de faire les machines. C'est le temps qui doit manquer. Les gens perdent leur temps à vivre, alors il ne leur en reste plus pour travailler.
Ce n'est pas plutôt le contraire, dit Chloé.
Non, dit Colin, s'ils avaient le temps de construire les machines, après ils n'auraient plus besoin de rien faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent pour vivre, au lieu de travailler à construire des machines qui les feraient vivre sans travailler.
C'est compliqué, estima Chloé.
Non, dit Colin, c'est très simple. Ça devrait bien entendu venir progressivement, mais on perd tellement de temps à faire des choses qui s'usent.
Mais tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rentrer chez eux et embrasser leur femme et aller à la piscine et au divertissement ?
Non, dit Colin, parce qu'ils n'y pensent pas.
Mais est-ce que c'est de leur faute s'ils croient que c'est bien de travailler ?
Non, dit Colin, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on leur a dit, le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout, et seuls les travailleurs ont droit à tout. Seulement, on s'arrange pour les faire travailler tout le temps, et alors ils ne peuvent pas en profiter.
Mais alors, ils sont bêtes, dit Chloé.
Oui, ils sont bêtes, dit Colin. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça leur évite de réfléchir et de chercher à progresser et à ne plus travailler.
Parlons d'autre chose, dit Chloé. C'est épuisant, ces sujets-là. Dis-moi si tu aimes mes cheveux.
Je t'ai déjà dit. Il la prit sur ses genoux. De nouveau, il se sentait complètement heureux.
Je t'ai déjà dit que je t'aimais bien en gros et en détail.
Alors, détail. Dit Chloé, en se laissant aller dans les bras de Colin, câline comme une couleuvre.
Pardon, monsieur. Monsieur désire-t-il que nous descendions ici ?
L'auto s'était arrêtée devant un hôtel au bord de la route. C'était la bonne route, lisse, moirée de reflets photogéniques, avec des arbres parfaitement cylindriques des deux côtés, de l'herbe fraîche, du soleil, des vaches dans les champs, des barrières vermoulues, des haies en fleurs, des pommes aux pommiers et des feuilles mortes en petits tas, avec de la neige de place en place, pour varier le paysage, des palmiers, des mimosas et des pins du nord dans le jardin de l'hôtel, et un garçon roux et ébouriffé qui conduisait deux moutons et un chien ivre. D'un côté de la route, il y avait du vent, et de l'autre, pas. On choisissait celui qui vous plaisait. Un arbre sur deux seulement donnait de l'ombre, et dans un seul des fossés, on trouvait des grenouilles. « Descendons ici, » dit Colin. « Aussi bien nous n'arriverons pas au sud aujourd'hui. » Nicolas ouvrit la portière et mit pied à terre. Il portait un beau costume de chauffeur en cuir de porc et une élégante casquette assortie. Il recula de deux pas et regarda la voiture. Colin et Chloé descendirent aussi. « Notre véhicule est passablement souillé, » dit Nicolas. « C'est toute cette boue que nous avons traversée. »«
Ça ne fait rien, » dit Chloé. « On va le faire laver à l'hôtel. »«
Entre et va voir s'ils ont des chambres, » dit Colin, « et de quoi se nutritionner. » « Très bien, monsieur, » dit Nicolas, portant la main à sa casquette et plus exaspérant que jamais. Il poussa la barrière de chêne ciré dont la poignée recouverte de velours lui donna le frisson. Ses pas firent craquer le gravier et il monta les deux marches. La porte vitrée céda sous sa poussée et il disparut dans le bâtiment. Les jalousies étaient baissées et l'on n'entendait aucun bruit. Le soleil cuisait doucement les pommes tombées et les faisait éclore en petits pommiers verts et frais qui fleurissaient instantanément et donnaient des pommes plus petites encore. À la troisième génération, on ne voyait plus guère qu'une sorte de mousse verte et rose où des pommes minuscules roulaient comme des billes. Quelques bestioles zonzonnaient dans le soleil, se rendant à des tâches incertaines et dont certaines consistaient en une rapide giration sur place. Du côté venteux de la route, les graminées se courbaient en sourdine, des feuilles voltigeaient avec un froissement léger. Quelques insectes à élytres tentaient de remonter le courant en produisant un petit clapotis semblable à celui des roues d'un vapeur cinglant vers les grands lacs. Sous la neige, il y avait des primes verts, des bleuets et des coquelicots.
« Oui, c'est beau, » dit Colin, « mais tu as tort de toucher ça, tu vas avoir froid. »
« Oh non !» dit Chloé, et elle se mit à tousser comme une étoffe de soie qui se déchire.
« Ma Chloé, » dit Colin en l'entourant de ses bras, « ne tousse pas comme ça, tu me fais mal. »
Elle lâcha la neige qui tomba lentement comme du duvet et se remit à briller au soleil.
« Je n'aime pas cette neige, » murmura Nicolas.
Il se reprit aussitôt. « Je prie, monsieur, de m'excuser pour la liberté de ce langage. »
Colin retira un de ses souliers et le précipita à la figure de Nicolas qui se baissa pour gratter une petite tache à son pantalon et se releva au bruit du verre cassé.
« Oh, monsieur !» dit Nicolas avec reproche. « C'est la fenêtre de la chambre de monsieur !»«
Eh bien, tant pis !» dit Colin. « Ça nous aérera. Et puis ça t'apprendra à parler comme un idiot. »
Il se dirigea à cloche-pied, aidé par Chloé, vers la porte de l'hôtel. Le carreau cassé commençait à repousser. Une mince pellicule se formait sur les bords du châssis opalescente et irisée d'éclats incertains, aux couleurs vagues et changeantes.
Nous avons donc terminé pour aujourd'hui le mariage de Colin et Chloé. Nous reprendrons la suite de cette histoire dans Lectures en liberté demain. Bonne soirée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.